3.
Envie d'en apprendre plus sur l'encadrement et sur différents enjeux des cycles supérieurs de l'Université Laval? Tu meurs d'envie de connaître ce qui se passe à l'Allier et dans les associations universitaires des cycles supérieurs? Ça tombe bien, l'Allier et CHIS 94.3 ont une émission juste pour toi. Les mardis de 11h30 à midi, écoute Question de savoir pour en apprendre un peu plus sur les enjeux des cycles supérieurs. Disponible aussi sur le CHIS.ca et en balado-diffusion.
Mardi, tout le monde, on est le 7 décembre et vous écoutez l'émission Chérie, j'arrive sur les ondes de CHIS 94.3. Mon nom est Félix Duchesne et je serai votre animateur pour cette prochaine heure et demie. Et de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va commencer ça avec la chronique Le gars des vues avec Alex Bayarjon. Il y a, Jonathan Paradis qui est dans le studio avec moi, qui va être là à compter de 15h pour faire sa chronique. Émile Lapointe va être là à 16h30 pour sa chronique Party Mix. À 16h45, je vais recevoir Julien Poitras, qui est éditeur de nouvelles BD sur René Lévesque. On vous parle de ça à 16h45. À 17h, il y a Jocelyn Sioui qui va me parler de la pièce « Mon oncle Jules » qui sera au théâtre à partir de demain, le 8 décembre, au Théâtre Périscope. Et on va conclure avec des nouveautés musicales comme je fais un peu à chaque émission. Ben, l'émission du mardi 7 décembre de Chérie J'arrive, ça commence maintenant. Et on va y aller avec une chanson. J'ai décidé de me gâter pour commencer l'émission aujourd'hui. Ça va être la chanson Concorde de l'album qui porte le même titre. C'est de la couleur. On les aime bien. On y va. On commence.
Longitude et latitude bord des radars. Sentir ta chaleur. Ses bras près de
Vous êtes de retour à l'émission Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. C'est le temps de la chronique. Le gars des vues. Et le gars des vues, c'est Alex Baillargeon. Salut Alex, comment ça va?
Ça va bien.
Je t'ai demandé aujourd'hui de quoi tu vas me parler. T'as fait un peu de recherche, mais là, étant donné qu'on est dans le mois de décembre, là, ça commence à être des nouvelles qui tournent vers le, plus en plus vers le potin, j'ai l'impression.
Oui, entre autres. Puis, ben, tranquillement, pas vite, on annonce aussi des nouveaux projets
oui,
qui vont
pour
éventuellement arriver. Fait qu'on fait un peu de projection. Ben, notamment, la grosse annonce du jour, si on peut l'appeler comme ça, c'est que Novo Bell Media a acheté les droits de la série Survivor. Donc, il y aura officiellement version québécoise de la télé-réalité préférée de Jean-Thomas Jobin, pour ne pas le nommer. On n'a pas de précision exactement où ça va être fait, donc on n'a pas de détails sur l'île en tant que telle.
C'est quoi ça, Survivor, pour mettre en contexte?
Survivor, en fait, c'est une télé-réalité qui dure depuis plusieurs années aux États-Unis, même que le concept remonte aux années 90, donc ça fait vraiment
quand
longtemps.
Même,
ouais. Dans les parents, disons, de la télé-réalité, il y a Big Brother qui est là depuis 99 et Survivor est arrivé à peu près dans les mêmes années. Donc, des gens sont pitchés sur une île déserte et survivent, littéralement. Donc, vont...
Ben, survivre, je suppose, avec une assistance minimale.
Oui, je pense qu'on fournit des outils. C'est à peu près
tout. C'est vraiment, vraiment... J'ai envie de dire quasiment survivaliste.
Ben, dans une certaine mesure,
le titre,
oui.
Ça s'appelle Survivor, donc c'est le concept.
Voilà, donc ben ça c'est pas exactement non plus comme une émission comme Naked and Afraid où ils vont être tout nus sur une île déserte.
Ça, c'est spécial.
Là, dans ce cas-ci, ils conservent leurs vêtements. Ça va être produit par G. Snyder qui va faire la version de Novo, qui sera à l'animation. On espère tous, évidemment, que ce soit Jean-Thomas Jobin. Quoique lui, son rêve, c'est de participer à la version américaine et non pas de juste être concurrent. D'ailleurs, le projet, c'était qu'il envoie les images de Big Brother Québec pour mousser sa candidature pour être candidat à la version US, ce qui n'empêcherait pas qu'il soit peut-être l'animateur de la version québécoise. Sinon, qui d'autre pour animer ça? Bonne question. Rita Baga, ça serait un peu étrange. Donc, voilà, nouvelle télé-réalité qui va apparaître du côté de Novo sur Bell. Ça devrait être tourné cet été, donc peut-être cet automne déjà.
C'est ça, c'est ça que tu disais en début de chronique. Tu dis c'est des nouvelles qui sont vraiment... qui parlent de projets qui sont embryonnaires parce qu'on dévoile le début du tournage. Ça veut dire que le projet commence.
En fait, dans ce cas-ci, ça serait
même pas le tournage.
Même pas le tournage. Ça serait qu'éventuellement, des auditions vont peut-être se faire.
Donc, il y a tout un processus à faire avant de voir ça sur nos écrans. Ça va être à suivre pour Survivors.
Survivor Québec.
Ils vont traduire ça de quelle façon, selon toi?
L'émission de survie.
Les survivants, non?
Les survivants, oui. Ils vont juste y mettre un petit intitulé en dessous. Un peu comme la nouvelle loi 101 qui oblige les magasins de rajouter un intitulé français, genre GameStop, magasin de jeux vidéo. Ben, ça risque d'être Survivor, les survivants de l'île. Enfin, non, même. Ça va être très cheesy, très quétaine, et on verra bien de quoi ça aura l'air. Ça sera du côté de Novo, éventuellement.
As-tu d'autres annonces pour 2022, d'autres potins qui sont circulés dernièrement?
On en a parlé complètement lissé de Rosalie Vaillancourt qui s'en vient très rapidement sur les ondes. Ben, en fait, non, ça va être sur le site de Novo. C'est pour être en ligne d'ici la fin de la semaine, début de semaine prochaine. À surveiller, évidemment. Sinon, il y avait une émission du côté de TVA qui devait être présentée cet hiver, qui s'appelle Hôtel, qui malheureusement ne verra pas le jour. Donc, il devait mettre en vedette notamment Nathalie Coupal en tant que matriarche de la série. On invoque des pénuries de main-d'œuvre pour que la série ne se sera finalement pas présentée à l'hiver. Okay. Moi, je soupçonne que c'est un scénario peut-être un petit peu trop faible qui justifie qu'elle ne sera pas présentée en grande pompe cet hiver. Donc, à la place, on verra plutôt La Faille 2. Donc, la dernière série télé de Marie-Pierre Morin, notamment, qui a dévoilé une addiction à la cocaïne et qui maintenant vend du café.
Prendre gorgée.
C'est pas du tout ironique, mais bon, elle tente un retour tant bien que mal parce que, évidemment, elle ne peut pas rien faire d'autre que d'être dans les médias. Pauvre Marie-Pierre, elle ne peut pas se recycler en tant que simple citoyenne. Elle veut être dans l'œil du public. Donc,
c'est un droit, tu sais.
En tout cas, on pourra en débattre plus longuement une autre fois, mais bon, fait que c'est la dernière série de Marie-Pierre Morin. Elle devrait quand... C'est vrai, non, c'est pas vrai. Elle va quand même être dans le film de Marie-Lou Wolfe.
Très spécial, ça, comme choix de casting. Ouais, aussi,
ben, puis Marie-Lou Wolfe qui s'entête à vouloir la conserver également. Mm. Donc, elles ont été vues sur le tapis rouge de Aline du côté de Montréal il y a quelques semaines. Donc, voilà, pour la tranche, pas de tête. Sinon, rapidement, avant de conclure, série qui est présentée présentement sur Disney+, quatrième épisode ou cinquième, qui devrait être mis en ligne demain. C'est la série Hawkeye qui se tourne du côté du sixième Avenger, littéralement, dans les originaux, du moins. On suit la perspective de Clint, personnage principal qui va, bon, quelques semaines après la fin des événements de Avengers 4. Donc, il retrouve tant bien que mal sa vie normale. On est dans la période des fêtes, d'où pourquoi c'est en ce moment présenté sur les ondes de Disney+, sur les ondes, qui est mis en ligne sur la plateforme de Disney+. Et ben, dans le cas de Clint, qui est un être humain, donc il n'a pas de super pouvoir, il vit encore les contre-coups d'être un être humain aux côtés de Dieu et de soldats surentraînés. Donc, certains problèmes de dos, problèmes d'audition, parce que, comme je le rappelle, c'est un être humain. Donc dans son... Et de concilier travail et famille, dans son cas à lui. Donc, il y a un peu tout ça. Évidemment, comme ça se place après les événements d'Avengers 4, il a eu une carrière alternative, disons, pendant que la moitié, en fait, pendant que l'entièreté de sa famille avait été effacée par le blip. Ben là, il retente tant bien que mal de retrouver ses points de repère avec sa famille. Quoique, il y a certains événements qui vont arriver, qui vont remettre son passé en vedette avec une jeune fille qui s'approprie peut-être un petit peu trop le personnage qu'il a occupé pendant ces années-là. Donc, c'est cette rencontre-là avec cette jeune-là qui l'a pris un peu en idole parce que en 2012, lorsqu'il y a eu les événements de New York dans les films Avengers, elle était une habitante de New York comme tous les autres. Donc, il y a aussi ce côté-là qu'on va voir les gens ordinaires. Ouais. Qu'est-ce qui se passait pendant que New York se faisait détruire aux trois quarts par des extraterrestres?
On parle souvent du Marvel Universe, là, tout cet univers-là dans lequel prend place tous ces films-là, ben, c'est un autre penchant.
Oui, ben, veux pas, il y a beaucoup de mèmes, de mimes sur Internet autour de ça, de les gens qui sont dans la rue et qui voient leur ville se faire détruire, à quoi ils pensent, à quoi ils réfléchissent, donc... Il y a un lien direct avec tout ça, puis bon, cette petite fille-là en 2012 est maintenant adulte. En 2023, dans l'univers de Marvel, parce qu'on est techniquement dans le futur dans Marvel, parce qu'il y a un 4 ans entre le 3e et le 4e Avengers. 3 ans ou 4 ans, mais bref, en tout cas, elle est maintenant un peu plus vieille, donc elle compose aussi avec le fait que toute sa vie, elle a voulu devenir aussi bonne que Hawkeye, comme je dis, qu'elle prend en idolâtrie. Donc, il y a cette dualité-là aussi de lui. Il veut juste être un gars parmi tant d'autres, mais qu'il se fait reconnaître dans la rue, puis il va au restaurant. « Ah non, non, c'est sur notre bras, on va vous payer la facture, il n'y a pas de trouble. » Puis lui, il est complètement mal à l'aise de tout ça. Fait que vraiment, il y a une belle dualité, justement, de... Techniquement, t'es le sixième Avengers. Tu peux être une vedette comme tous les autres. Puis lui, il veut rien savoir de ça. Notamment, ben, dans les films, on le voyait, sa famille est à la campagne, ils sont cachés, ils veulent pas être vus, mais que quand ils se retrouvent dans les lieux publics comme New York dans le temps des fêtes, ben là, c'est sûr que là, il se fait un petit peu plus remarquer et tout ça. Et notamment, ça donnait droit à Rogers, The Musical, qui était le Broadway basé sur les événements du film, qui est un délice tant qu'à moi dans le premier épisode, qui est réellement l'affaire la plus loufoque et l'affaire la plus drôle en même temps, dont on veut voir un spin-off, un peu une parodie d'Hamilton, mais avec l'univers des Avengers. Fait que tous les clichés musicaux s'y retrouvent. Et on a même demandé à des acteurs professionnels de Broadway de jouer ces scènes-là.
C'est ça.
La musique a été...
On fait appel à des vrais professionnels.
C'est ça. Et la musique a été écrite par un des deux auteurs de Hairspray.
Oui.
Fait que tu sais, tout est mis en œuvre pour que ça soit un vrai musical, même si ça se veut une parodie total, mais les gens, en ce moment, c'est un autre meme sur Internet, les gens demandent à voir l'entièreté de cette scène-là, de voir comment qu'on ait un spin-off, qu'on fasse Rogers The Musical, un spectacle de 3 heures musical des Avengers. Les gens veulent voir ça. Bon, évidemment, c'est surtout pour la blague que ça s'est fait, mais... C'est aussi un peu un clin d'œil au fait qu'il y a des tragédies dans la vie qui se passent et Broadway, eux, veulent faire un musical de tout ça. Ouais. Absolument, justement, ouais, Hamilton, c'est basé sur les pères fondateurs et tout ça. Fait que, ils veulent mettre version musicale de quelque chose qui est très, très trash. Dans le cas des Avengers, c'est « Ah, on a détruit la moitié de la ville, mais grâce aux Avengers, on est encore là! Yeah! Ouais. On fait le party! » Fait que, tu sais, il y a toute cette dimension-là aussi qui est un gros clin d'œil à Broadway, justement. Donc, il y a une belle... Il y a une belle, je dirais, dualité entre ce qui est ironique et en même temps, on veut souligner que ça se passe aussi dans la vraie vie. Ouais. Fait que, tu sais, il y a toute cette espèce de dimension-là aussi. Puis bon, ça fait sourire, veut pas. Et tranquillement, pas vite, bon, on s'en va vers soit un prochain Avengers ou la prochaine phase du Marvel Universe. Donc, il est un peu nécessaire quand même à visionner parce que, notamment, ben, ne serait-ce que de donner un peu de temps de jeu à Hawkeye vu qu'il n'y aura pas de film en tant que tel. On lui a donné une série de 6 épisodes. Donc, épisode 5, avant-dernier épisode de la série, disponible sur Disney+.
Allez voir ça. Et sur Disney+, aussi, si vous avez l'abonnement, tout le monde en parle en ce moment, c'est le documentaire Get Back des Beatles aussi,
oui, évidemment,
qui vaut la peine.
C'est un long 8 heures.
Oui, 8-9 heures là, de studio. On m'a dit que ça donnait l'impression justement d'être avec eux en studio, avec la répétition des chansons, avec le fait de travailler d'un bout à l'autre d'une chanson. Ça peut être long par contre.
Ben, je te dirais que pour les passionnés de musique et les fans aguerris
Des Beatles
vont avoir leur compte, parce que ça, c'est d'entrer dans la création de cet album-là. Puis le premier documentaire à l'époque qui avait été distribué, qui avait été publié, montrait que tout le monde était chicané, tout le monde était fâché les uns avec les autres, puis c'est le pire album, à monter des Beatles. Mais finalement, dans les faits, quand justement on a accès à ces bandes d'images-là, oui, chicane, mais ils font pas que ça. Ils sont capables de se parler, de créer, puis tout ça. Même que Yoko Ono qui a approuvé, justement, parce que n'importe quel truc des Beatles qui sort doit être approuvé par la succession, la succession de tout le monde. Ouais. Et à la limite, Paul McCartney puis Ringo, qui sont encore vivants, les deux doivent dire, eux autres aussi, oui, on approuve ça.
Ouais.
Ben, ils montrent aussi que, dans le fond, Yoko est assise dans le fond, puis elle fait rien. Là, elle est là parce qu'elle est collée sur John Lennon, mais elle est pas là à détruire les Beatles, comme le vieux cliché le disait. Fait que c'est pour ça qu'elle est comme, voyez, je suis pas si terrible que ça. Oui, j'ai pas d'affaires là, mais je suis pas si en train de détruire les Beatles que ça. Fait qu'elle est contente de ça. Bon, si Yoko est contente, tant mieux. Fait qu'au moins, on a pu avoir accès à ça. Mais ça vient du gars des Seigneurs des Anneaux. Fait que c'est sûr que c'est long comme film.
C'est long et c'est grandiose. Mais on vous laisse aller voir ça, être témoin de ces enregistrements studio-là avec Get Back, le deuxième, hein, Alex, c'est important de dire. Le deuxième documentaire des Beatles. Je m'étais trompé.
Voilà, revu et corrigé dans ce cas-ci.
Revu, corrigé, et c'est de cet événement-là, parce qu'évidemment qu'il y en a eu plus d'un, un documentaire sur les Beatles. Merci, le gars des vues, d'être passé aujourd'hui à Chérie J'arrive.
Ça fait plaisir.
Sous qu'il se passe. Faut pas qu'on s'en tige, faut pas qu'on se fâche. Non, je t'enverrai des messages. Tu sais que j'étais juste ici en stage.
De retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutiez Octobre, évidemment, la collaboration avec Bonnie Banane de Hubert Lenoir. On parlait avec Alex Baillargeon pour la chronique Le gars des vues, et c'est maintenant, comme à chaque mardi, 16h15, avec Jonathan Paradis. Salut Jonathan, comment ça va?
Ça va, merci.
Ben, on va continuer avec ta fameuse chronique que tu me parles, entre autres, du milieu du drag à Québec, des représentations dans les émissions de télé-réalité. Aujourd'hui, tu veux me parler de Adriana? C'est dans quel contexte?
Oui, plein de choses aujourd'hui. D'ailleurs, c'est mes deux émissions préférées pratiquement à vie. Là. Donc, okay. Canada's Drag Race / RuPaul's Drag Race et The Voice. Donc, je vais vous parler d'une représentation trans un peu plus tard.
Ouais.
D'abord, Adriana. Donc, l'émission dont je redoutais le plus, malheureusement, c'était son élimination. Et c'est parvenu donc la semaine dernière. Elle s'est rendue jusqu'au top 5 quand même.
Pourquoi redoutais-tu cette émission-là? Tu le ressentais un peu qu'elle allait partir?
Non, aucune. Justement, moi j'y souhaitais juste
qu'elle se rende le parcours.
Ouais, ouais, en effet. Et non, je regardais ça un peu comme une game de hockey. Puis j'espérais qu'elle gagne. Qu'elle gagne la game.
Canada Drag Race, le hockey, même en
face. En plein ça. Donc, Adriana, elle a dû donc lip sync sur la chanson Everybody Say Love de Mitsu,
okay.
une icône québécoise. Et la chanson a été écrite par RuPaul, donc on a trouvé un bon lien ici. Mitsu, c'était la juge invitée, donc on la connaît de « Baba et mon cowboy »,
ouais.
Ou c'est pas mal la seule chanson que je connais d'elle. C'est la première représentation québécoise à Drag Race. On les a vus hier à la semaine des 4 juillet avec les trois drag queens québécoises. Ouais. Donc c'était bien de les voir, des super beaux looks si vous voulez revoir la séquence. Et sinon, les looks particulièrement d'Adriana étaient écœurants cette saison. J'ai pu écouter plusieurs reviews, autant en anglais qu'en français, ouais. Un peu partout. Et ces looks étaient toujours dans les préférés. Et,
qu'est-ce qui ressort, Adriana, de l'autre, des autres de la cohorte de Canada's Drag Race de cette année?
Je dirais que c'est ça, c'était une silent killer.
Okay.
Elle n'était pas la plus expressive,
ouais.
mais quand c'était à son tour de frapper, elle frappait fort.
C'est quoi son atout, disons?
Je dirais que c'est ses looks. Vous pouvez aller revoir justement sur Instagram, je vous le recommande fortement. D'abord, son look de sirène pour commencer. Elle a fait un look en hommage du Cirque du Soleil également. La semaine qu'elle a gagné, c'est un look de Marie-Antoinette. Très okay. impressionnant.
Donc, elle va dans tous les genres. Si on pourrait dire.
Ouais, vraiment. Ben là, c'est sûr qu'elle s'adaptait à la catégorie demandée. Sinon, aussi une commémoration à Vanessa Morgan de Riverdale et un look inspiré par Ariana Grande et Lady Gaga, son album Chromatica. Donc, ouais. En tout cas, plein de beaux looks. Vous pouvez voir ça. Je dirais que c'est son atout lors de cette saison. Et donc, c'est dommage. Elle termine donc en cinquième place. Et on va avoir la finale donc d'ici deux semaines. Mais elle va être présente durant les deux derniers épisodes. Donc,
ouais.
Elle revient. Donc, elle va quand même avoir fait tous les épisodes de la saison. Donc,
ouais.
c'est un gros check pour Adriana.
On va pouvoir voir et qui a ton vote dans le Fabulous Four.
Oh, yo, yo. je dirais celle qui l'a battue, en fait, celle qui a éliminé nos deux queens
okay.
Du Québec, Icy Scooter. Elle vient d'Ottawa, donc elle représente beaucoup le bord, le lookout.
Okay.
C'est un très bel établissement aussi. Je crois que Icy Scooter a beaucoup de chance.
Okay.
Donc, pour Adriana, donc, elle a représenté très bien le Québec et la Colombie aussi, vu oui. que ça fait partie de ses
origines.
Ses origines, en effet.
Tu veux maintenant passer à The Voice. Tu m'as rappelé, je pense que je le savais déjà, mais tu me l'as rappelé, qu'Ariana Grande est juge à cette émission de chant à The Voice. Et il y a quelqu'un dans son équipe dont tu veux me parler.
Oui, en fait, c'est la seule... c'est un duo. Il s'appelle Sacha Allen, donc avec son père Jim.
Ouais.
C'est les derniers candidats, dans le fond, qui restent dans l'équipe d'Ariana, contrairement aux autres coachs qui en ont tous deux et plus.
Okay.
Donc, est un peu désavantagé là-dessus.
Uh-huh.
Mais c'est les... Mais bon, Sacha Allen, c'est la troisième personne trans en 21 saisons à The Voice. C'est le premier à traverser les champs de bataille. Et on voit vraiment qu'il est là pour la représentation. Après ses performances, d'ailleurs, la semaine passée, on va le voir crier « trans rights » et avec tellement plein d'émotions. Et on voit qu'il est content de pouvoir représenter cette communauté-là sur une si grande plateforme. En plus, dans l'équipe d'Ariana Grande, je veux dire, qui aimerait pas ça, être coaché par elle.
Ça serait mon rêve.
Moi aussi. De plusieurs personnes aussi. Et ce soir, donc c'est l'élimination. On va pouvoir savoir s'ils vont se rendre dans le top 6, je crois.
Ouais.
Donc, on lui souhaite toutes les meilleures chances du monde. En plus, que ce soit une bonne représentation pour la communauté trans. C'est un super bon chanteur aussi. C'est vraiment impressionnant. Et l'harmonie aussi qu'il a avec son père, c'est assez particulier, mais je crois que c'est ce qui fait leur charme, vraiment. Et... Donc, malheureusement, on ne peut pas voter, nous, en tant que Canadiens. Donc, mm-hmm. je vous dirais bien, votez. Mais on ne peut pas. Je l'aurais fait aussi, sinon. Mais bon, on va le découvrir ce soir s'il passe à la prochaine ronde.
C'est quand même assez spécial aussi de voir le support direct du parent. De participer au concours ensemble, c'est une façon encore plus, j'ai envie de dire, plus affichée de supporter son enfant à travers cette vie qui a dû être quand même assez difficile pour cette personne-là. Qui aussi,
est très jeune aussi.
Qui s'affiche comme étant aussi justement une activiste de ces droits-là. Tu disais tantôt qu'elle s'écriait en disant trans right. Donc
Il,
c'est vrai. Ouais, excuse-moi. C'est donc on va lui souhaiter les meilleures chances. Rappelle-moi son nom aussi.
Sacha Allen.
On va lui souhaiter la meilleure des chances à The Voice avec l'équipe de Ariana Grande. Et ici de notre côté, on va continuer de suivre Adriane et aussi Canada's RuPaul Drag Race.
Adriana.
J'ai dit Adriana, excuse-moi. Dans la prononciation aujourd'hui, ça va pas, mais on va se reprendre. On va se retrouver aussi la semaine prochaine pour conclure cette année avec Chérie, j'arrive et ta chronique avec Jonathan Paradis. Je te remercie beaucoup et on se dit à la prochaine.
Merci à toi.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Tous les jours, on en fait. Tous les jours, on en parle. Mais on s'en rend pas compte. En fait, c'est un peu inconscient. Notre vie en société est marquée par, la politique. Chiz 94.3 accueille les mercredis juste de la politique, autant pour ceux qui ne la comprennent pas que pour les pros et fans finis. Avec moi, Félix Bouffard et mes collaborateurs, on décortique, analyse et réfléchit la politique locale. Allez, venez participer à la discussion. Juste la politique, en direct les mercredis 14h et en balado sur chiz.ca.
T'as envie de rire, te divertir et parler des vraies choses? Entre toi et moi, c'est la nouvelle émission sans tabou à ne pas manquer cet automne. Rejoins-nous chaque mercredi de 9h à 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
Ne manquez pas Safia Nolin en concert le 9 décembre au Pantoum à Québec. Elle y présentera son plus récent EP, Sum, en full band. Détails et billets au safianolin.com.
Hey Pat, qu'est-ce que Jean Leloup, Jane Austen et Salvador Dali ont en commun?
Des cheveux?
J'allais plutôt dire qu'ils peuvent tous nous apprendre de grandes et de petites choses sur la vie grâce à leur apport créatif et intellectuel dans leurs disciplines respectives.
Donc c'est pour ça qu'on parle d'eux à la Planète des Sages, l'émission qui, chaque semaine, s'intéresse à la pensée d'une figure populaire afin d'en retirer un peu de sagesse.
Rendez-vous les jeudis 11h sur les ondes de Chiz 94.3.
Fait que les cheveux, c'était pas bon?
Non, c'était pas bon.
Said it once, said it twice. never in the light, never not analyze every single detail. I need some intel. I don't deal well with surprises. Never knew how not to overanalyze it.
Yeah, yeah, yeah. Vous êtes de retour à Chérie J'arrive pour la deuxième demi-heure de cette émission. Vous écoutiez Sophia Bell avec 2AM and I did it again. Et c'est maintenant le temps d'y aller pour la chronique Party Mix avec nul autre que Amy Lapointe, que je rejoins par appel téléphonique. Salut Amy, comment ça va?
Ça va bien, toi, Félix?
Ben oui, ça va super bien. On poursuit avec ta chronique cinématographique intemporelle. Tu nous parles de films dont... t'as le goût de nous parler de certains films des fois. Tu nous as parlé des Gremlins, tu nous as parlé des films Halloween, des films... voyons, c'est quoi le terme que je cherche? Des... Éclaire-moi, aide-moi.
Amy. Des slashers.
Des slashers, c'est exactement ça. Ouais. Et aujourd'hui, tu nous parles de Zodiac, un film de 2007.
Moi, je suis un peu, peut-être super dans le mood avec la tempête de neige, chérie, puis ça, c'est un peu plus Halloween. Je pense qu'on avait parlé la semaine dernière de David Fincher, puis de son œuvre un peu éclectique, là, du fait qu'il avait réalisé bon nombre de films, puis qu'on ne savait comme pas qu'il avait réalisé tous ces films, puis qu'il a réalisé Seven, il a réalisé Fight Club, il a réalisé le film sur Facebook. Gangler, bref, avec le troisième Alien, vraiment une drôle de filmographie, quand même impressionnante pour la vie.
On peut dire éclectique.
Oui, très. Je sais pas si as-tu vu Zodiac?
Zodiac, non. La dernière fois qu'on en avait parlé, j'avais fait référence, évidemment, au signe astrologique. Mais là, j'ai seulement eu le temps de voir la distribution. Là, puis ça promet quand même avec Jake Gyllenhaal, avec Robert Downey Jr., avec Mark Ruffalo. C'est du monde connu, ça.
Ouais, c'est ça. Oui, c'est un très, très gros casting quand même. Mais déjà, je veux dire, comment c'était un film d'astrologie, ça aurait pu, par contre, c'est quand même des chances que je t'en parle. En fait, c'est inspiré de faits vécus, en fait, d'une véritable histoire qui s'est déroulée dans les en fait, aux États-Unis. Des histoires de meurtre, en fait, un tueur en série qui s'amusait à laisser des traces, des messages cryptés qui envoyait aux policiers, aux journalistes. Puis en fait, encore à ce jour, là, c'est comme c'est pas vraiment un spoiler du film parce que dans la vraie vie, c'est connu, mais encore à ce jour, on n'est pas certain de l'identité du Zodiac. Puis en fait, ce film-là met en scène toute l'enquête. C'est un film de 2017. Le traitement de l'image a vieilli correct. J'avouerais que c'est peut-être ce qui vient le moins bien. Par contre, il y a un travail qui fait surtout sur la symbolique des couleurs, quel personnage porte quelle couleur à quel moment.
Oui.
Puis, en fait, le petit résumé, on a Jake qui travaille, je ne saurais pas comment parler, je ne peux pas le prononcer, c'est lui.
Gyllenhaal.
Oui, c'est ça, lui. Il travaille comme dessinateur. Puis bon, il y a un premier meurtre, ensuite des premiers messages qui sont envoyés, puis c'est un jeu de décryptage. Puis c'est un petit peu tout le long, en fait, du film, il y a une espèce de motif qui revient, c'est le motif du labyrinthe. Est-ce que c'est quoi un motif en cinéma, mettons?
Il faudrait que tu m'expliques pour être sûr de aussi rafraîchir la mémoire à ceux qui nous écoutent.
En fait, un motif, c'est juste un élément important qui soit en rapport à la forme ou au fond, mais qui revient souvent dans un film, puis qui occupe une symbolique importante.
As-tu un exemple?
Ben oui. Par exemple, dans le film The Shining, de Kubrick, il y a un motif avec le nombre 42.
OK.
Par exemple, le 42, il y a 42 voitures dans le stationnement. Le chant des petits garçons, c'est 42. Ouais, il donne bon... Il y a comme 42 coups de batte dans le vide. Bref, le nombre 42 est partout. Quand on se met à chercher, il est absolument partout dans le film. Puis c'était pas un élément important dans le livre, mais Kubrick probablement fait référence à la race du Vélodrome d'hiver en 1942, parce qu'il est juif, il parlait de la Deuxième Guerre mondiale, mais ça, on s'éloigne de ça. Mais bon, le motif qui revient, c'est tout ce qui est lié justement à l'aspect labyrinthique. Puis cet aspect-là se découpe en comme plusieurs morceaux. On a d'une part le motif de la voiture. Donc le premier meurtre se fait dans une voiture. Puis on voit ça aussi comme une espèce de symbole du American Dream. Puis une espèce de protection que nous permet l'automobile en général. Puis il y a plusieurs meurtres qui vont se passer autour de ça. Là, je veux pas. Parce que malgré qu'on ne sait pas qui crée les meurtres, il y a quand même des petits spoilers. D'ailleurs, le film est sur la passion qu'on a parlé la semaine dernière, sur Criterion.
Oui, qu'on vous invite. Si vous êtes étudiant, c'est gratuit.
C'est absolument gratuit.
Et voilà.
Ouais, plus ou moins, mais ça fait. Puis, il y a une séquence particulière, en fait. Au début du film, que ça ouvre, on a un plan séquence. Puis, c'est rare, mais c'est la fille qui conduit la voiture, puis elle va chercher son boy. Son boy, t'as-tu écouté les Frères Scott?
Oui, de façon un peu, j'ai envie de dire, passagère, mais oui, j'ai écouté.
Tu sais que c'est en français ou tu écoutes en anglais?
Bien évidemment en français, à VRAC TV.
Super. Donc, c'est le gars qui... C'est le micro, là. Le gars un peu nerd,
ouais.
Qui est le premier à se faire éclater la tête par le tueur du Zodiac. On va beaucoup se servir de la voiture pour se promener aux frontières de la ville. Puis Zodiac, ça donne l'impression d'être devant un film d'une enquête policière, mais en fait, c'est pas devant un film d'enquête policière, c'est devant un film de gens qui ne savent pas communiquer. Puis tout est tout le temps brouillé parce qu'on assiste à une mise en scène, mais une mise en scène qui est effectuée par le tueur. C'est-à-dire que nous, on est là, lui, il est sur scène, puis il nous éclaire, puis on voit pas. On voit pas ce qui se passe, on comprend pas. Et on pense, puis à chaque fois qu'on pense comprendre, finalement, pas du tout, on s'est éloigné. Par exemple, les meurtres vont souvent se passer aux frontières des villes, ce qui fait que c'est pas clair c'est à qui que ça appartient le cas, est-ce que c'est à la police de telle municipalité ou à telle municipalité, ce qui fait qu'on s'embrouille dans les recherches. Le fait que les policiers reçoivent une partie des informations, que les journalistes reçoivent une partie des informations, mais qu'il y a toujours un intermédiaire quand on se parle jamais directement, ce qui fait qu'on court un peu à notre perte justement parce qu'il y a des informations qui se perdent puis des messages qui sont transmis de façon erronée. Puis c'est un film qui est tourné à San Francisco, mais même si c'est tourné à San Francisco, à part un plan au départ où on voit évidemment le Golden Gate Bridge, ouais, le fameux pont. Puis encore là, le plan est vraiment inhabituel. En tout cas, on le voit comme en espèce de sur le dessus plutôt que de le voir sur le côté, mais qui est plutôt classique comme vision. Mais sinon, on reconnaît comme pas la ville. C'est toujours tourné de soir, dans les petites rues, dans les ruelles. Près de bâtiments qui n'ont rien d'iconique. Mm-hmm. Donc, même si on sait qu'on est à San Francisco, il y a peu de choses qui nous donnent qui nous prouvent vraiment qu'on y est. Puis, il y a tout ce qui est lié au cryptage pour décryptage. Puis, on a vraiment l'impression que, tu sais, moi, je savais quand j'écoutais le film que le Zodiac, parce que j'écoute, j'aime bien le true crime.
Oui.
Mais, j'avais l'impression que puis je savais qu'au final, le Zodiac, on ne sait pas vraiment c'est qui. Puis pourtant, t'écoutes le film, puis t'as la certitude qu'ils vont finir par trouver c'est qui, alors qu'on sait qu'ils trouveront jamais. Puis le personnage de Jake, c'est probablement le personnage qui se perd le plus. Puis les trois protagonistes principaux finissent vraiment par se perdre à force de chercher, s'enfoncer dans une espèce de labyrinthe où chaque fois qu'ils pensent qu'ils s'approchent du coupable, de la réponse, ben finalement, ils s'en éloignent. Mais pour vrai, c'est vraiment un très bon film. La bande sonore est aussi vraiment très bien. C'est pas effrayant, contrairement à Seven, là, qui est comme un film avec Brad Pitt. Puis Nelson Mandela, qui est quand même glauque, là, avec les têtes coupées et les pêches chapiteaux.
Oui.
The Zach fait aussi très bien ça, qui est dans la. Tu sais, oui, les fins des meurtres, mais c'est rien de très, très graphique. On est beaucoup dans la suggestion. Puis toute cette idée-là, justement, d'enquête qui devrait aboutir, qui finalement aboutit jamais, le scénario classique du film policier est vraiment détourné. Puis, à la fin du film, on a comme une impression, parce qu'en fait, dans la première victime va pas finalement vraiment mourir. Puis, la personne qu'on a finalement écartée comme suspect redevient suspect principal. Puis on a l'impression de retourner juste à la case départ, puis que même cette personne-là qu'on croit aujourd'hui avec la personne n'a pas de match ADN. En tout cas, bref, c'est un film qui est très, très frustrant, là, cela dit. Mais il y a un travail sur la carte mentale, sur le labyrinthe, sur le cryptage et décryptage qui est vraiment fait d'une main de maître, puis que c'est un film qui est absolument obsédant, mais il ne faut pas perdre de la tête en l'écoutant, comme Jake.
Tout à fait, mais on va quand même vous inviter à aller voir ça, Zodiac, qui est un film 2h37. Est-ce que c'est un film, tu l'as dit, qui était obsédant, qui était assez frustrant par moments, parce qu'on veut trouver aussi, finalement, boucler cette boucle policière. Donc, on va vous laisser aller voir ce film Zodiac en essayant de trouver aussi les motifs du labyrinthe. C'était la chronique Party Mix avec Amy Lapointe. Merci beaucoup, Amy, d'être passée à l'émission aujourd'hui.
Merci Félix. Bye, bonne journée.
La tâche originelle.
De retour à l'émission Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. J'ai maintenant en entrevue Julien Poitras, qui est l'éditeur d'une BD qui est accordée à la vie de René Lévesque. On va parler du début de sa carrière en tant que journaliste. Après, c'est évidemment son parcours en politique. Et c'est illustré par plus d'une vingtaine d'artistes, autant de la bande dessinée que de l'illustration. On a une équipe variée. Ben, tout d'abord, bonjour M. Poitras, ça va bien?
Oui, bonjour Félix, ça va très bien. Merci.
Oui, on va parler justement de cette BD René Lévesque qui est c'est déjà disponible au public.
Ça va être disponible demain. En fait, le lancement officiel est, ouais. est demain dans les librairies. Puis on fait un lancement également à la Ninkasi le demain
oui,
soir.
Oui, tout à fait. On va pouvoir justement parler un peu en primeur pour que les gens puissent aller se le procurer demain. Ça s'appelle René Lévesque, quelque chose comme un grand homme. Et comme on s'en discutait avant d'entrer en onde, René Lévesque... Tout le monde le connaît. Il a façonné le Québec qu'on connaît maintenant, entre autres avec la nationalisation de l'hydroélectricité, la fondation du Parti québécois aussi, c'est pas rien. Et le référendum et ses discours, son charisme. Il y avait beaucoup d'angles que vous auriez pu présenter, René Lévesque. Pourquoi avoir décidé d'avoir utilisé la bande dessinée comme média?
Oui.
Comme médium, devrais-je dire.
Oui. Tu dis oui, on le connaît. On le connaît jusqu'à un certain point lorsqu'on fait quand même des sondages chez une clientèle plus jeune. Là, c'est pas si clair que ça. Là. Les gens connaissent le boulevard René Lévesque. Quel est l'homme derrière le boulevard? C'est pas toujours...
On sait qu'il est important, mais des fois, on ne sait pas pourquoi.
Exact, tout à fait. Et puis, l'idée était vraiment d'essayer d'aller... de faire une biographie, mais une biographie qui est quand même sélectionnée là, dans le sens qu'il y a 13 chapitres de sa vie qui sont illustrés à l'intérieur donc, du livre comme tel. Et l'idée également de ce projet-là, c'est le fait qu'en 2022, ça va faire 100 ans qu'il est né. Là. Donc, c'est le 100e mm-hmm. anniversaire de sa naissance. On trouvait ouais. ça important de souligner la carrière de cet homme-là. Il le fait également, il y a cette importance-là, à mon sens, de souligner pour la mémoire collective là, ces carrières-là. Puis, il faut dire qu'à travers cette histoire-là, il y a vraiment des beaux moments. Là. Tu parlais de la nationalisation de l'électricité, tout ça. Mm-hmm. Je pense que notre passé, quelque part, a été glorieux au Québec et c'est intéressant là, de mettre ça en image, effectivement.
Tout à fait.
Pourquoi la bande dessinée? Bien, écoutez, c'est le médium qui, entre guillemets, sied le mieux à Marc Tessier, là, qui est le scénariste qui a mm-hmm. eu cette idée-là initialement. Et puis, pour lui, c'était clair que ça devait être à travers ce médium-là qu'on traite du sujet. Je te dirais également qu'il y a eu quand même certaines tentatives de rendre hommage à René Lévesque à travers une mini-série, entre autres, mais okay. qui n'avait pas été tellement appréciée, là, puis qui avait ses défauts, qui dépeignait un René Lévesque là, ça avait été critiqué, là, disons, à l'époque. Mm-hmm. Et l'idée, c'était de vraiment laisser le libre champ à ce moment-là à la bande dessinée. Puis d'ailleurs, il y a un parallèle intéressant qui est fait dans le livre, parce qu'il y a des bandes dessinées, mais il y a une couple de textes également. Mm-hmm. Pierre Skilling, là, qui fait une relation entre René Lévesque et la bande dessinée. Là, le fait okay. que René Lévesque a été également illustré en bande dessinée auparavant de son vivant dans différentes histoires. René Lévesque, lorsqu'il est allé en France, à un moment donné, a cité Astérix même, faisant référence. Donc, faisant référence à un héros de la bande dessinée bien apprécié des Québécois et des Québécoises. Donc, ce parallèle-là, quand même, intéressant. Puis c'est, mm-hmm. c'est un médium qui ne se prend pas trop au sérieux non plus. Là. Donc, ouais. À quelque part, ça nous permettait d'aborder plusieurs éléments de la vie de René Lévesque sous différents angles. Mm-hmm. Et ces angles-là, il y a des angles qui sont très je dirais personnel à l'intérieur ouais. de ce livre-là. Entre autres, le chapitre final où on retrouve René Lévesque avec Corinne en visite dans un pays étranger où on lui témoigne à travers un Québécois qui a rencontré la grande appréciation de la nouvelle génération qui mm-hmm. a profité donc des avancements que René Lévesque a permis au travers de la Révolution tranquille et mm-hmm. La nationalisation de l'électricité, comme tu le disais tout à l'heure.
Évidemment, on parle de cette histoire de René Lévesque, de son histoire personnelle, mais on ne peut pas passer à côté de son histoire aussi, j'ai envie de dire, en société, son histoire et son parcours historique, politique. Cette histoire-là de Tipoil commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale où René Lévesque se parcourait le monde. On le connaît entre autres aussi pour finalement ses reportages qui étaient vraiment dans le feu de l'action. Il a vraiment su c'était quoi. Il a même été dans un camp de concentration. Pourquoi avoir décidé de commencer ça à ce moment-là exactement?
Bien, en fait, c'est sa démarche journalistique à ce moment-là qui débutait. Puis, en fait, le lien était à faire à ce moment-là avec une démarche qui a évolué vers un engagement politique. Ouais. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Mais il faut voir également que ces années-là ont façonné beaucoup René Lévesque comme être humain. C'est un être qui était profondément préoccupé par la situation de ses frères et de ses sœurs humains. Et à quelque part, le fait d'avoir été à Dachau, d'avoir ouais. été un des premiers sur des lieux de constater le génocide qui avait été commis à ce moment-là, a profondément marqué René Lévesque, je pense, dans sa vision et dans sa façon d'approcher plus tard la politique et mm-hmm. les questions d'équité et de justice dans notre société québécoise. Donc, c'était important, je pense, de le sélectionner de cette façon-là. Mais comme tu le dis, il y a d'autres chapitres où on vient comme illustrer finalement, c'est comme un portrait qu'on fait, mais pas uniquement après, avec les grands moments de sa vie. Il y a des moments plus intimes, plus spécifique, je dirais, à son cheminement, mais qui ouais. explique également l'homme, mais qui marque aussi l'histoire du Québec. L'idée là-dedans, c'est aussi de parler de la Révolution tranquille, de parler de l'évolution de notre société québécoise à travers ce filtre-là de la vie de René Lévesque. Donc, mm-hmm. ça nous permet donc une approche qui est multidimensionnelle et qui ne parle pas nécessairement uniquement des grands coups comme l'élection mm-hmm. du Parti québécois, mais ouais. également des périodes plus noires et plus sombres dans notre histoire, dont la nuit des longs couteaux là, qui est relatée.
Bien, ça, c'est très important pour René Lévesque. J'imagine aussi que vous parlez un peu de ce qui est arrivé en 80 quand il a dit « Vous me dites à la prochaine fois ». Est-ce que cet événement-là qui est un peu triste pour lui passe dans cet ouvrage?
On ne l'a pas relaté de façon... c'est un choix, là, comment dire, de l'auteur. Mm-hmm. Et c'est plus les conséquences de la défaite du référendum qui sont relatées à ce moment-là. Effectivement, donc, la nuit des longs couteaux dont on parlait tout à l'heure et les effets, en fait... Qui se sont produits par la suite. Donc, René Lévesque, c'était pas un homme parfait, là, dans le sens que il peut être vu comme un modèle, mais il a vécu des moments moments difficiles, des moments plus faciles. Il y avait ses défauts également. Et je pense que l'intérêt d'un livre comme ça, c'est d'illustrer la complexité d'un homme politique comme René Lévesque. Il nous fait la démonstration donc, que nos hommes politiques ne sont pas parfaits, mais que malgré ces imperfections, on est capable d'arriver à de grandes choses parfois et de changer le cours d'une société.
Mm-hmm. Tout à fait. On peut, comme vous le dites, changer le cours d'une société et pas que porter le titre d'un boulevard comme plusieurs personnes le pensent. Avant de conclure justement cette entrevue-là, j'aimerais ça être sûr de parler des artistes qui ont illustré cette BD-là, parce que sans eux, on n'aurait pas pu avoir cet aspect visuel qui est si important pour René Lévesque, quelque chose comme un grand homme. À qui avez-vous fait appel pour illustrer?
Bien, il y a vraiment, comme tu le dis, plusieurs dessinateurs, plusieurs illustrateurs. Les 13 chapitres sont illustrés par 13 artistes différents. Okay. Il y a certaines illustrations donc, qui ont été faites spécifiquement pour le livre, mais également des illustrations qui ont plusieurs années, qui ont été réutilisées. Entre autres, la première page, c'est une caricature de Robert Lapalme, un de nos grands caricaturistes, qui a été sorti des boulamites, entre guillemets, puis qui a été inclus dans le livre. Mais les chapitres sont vraiment, puis ça, je pense que c'est une touche de grand génie de la part de Marc Tessier, le scénariste, ont vraiment été sélectionnés. Des artistes qui, à mon sens, ont un style graphique et visuel qui est vraiment en lien avec le chapitre comme tel qui est raconté. Tu parlais tout à l'heure de Dachau. Cette partie de bande dessinée-là est vraiment un peu plus trash en termes de style graphique.
Ouais, okay.
La dernière partie avec Corinne, son épouse, est tout en douceur, tout en délicatesse. Donc, il y a vraiment un lien qui est fait entre le style de l'artiste et le chapitre. Et je pense que c'est vraiment une des forces de cette bande dessinée-là qui, à travers une histoire qui est intéressante, qui nous raconte le Québec, mais il y a également ces éléments graphiques qui nous mènent d'une histoire à l'autre, d'un chapitre à l'autre, et qui participent également au mouvement là, qui intéresse le lecteur et qui fait en sorte que, pour ma part, j'ai dévoré ce livre-là là, comme lecteur. Et ça, je pense que c'est une des sources d'intérêt, là, cette variété au niveau de la sélection. Et il faut dire également qu'il y a des artistes chevronnés comme Godbout, là, qui est bien connu en bande dessinée, qui a fait Michel Risque, Red Ketchup. Il y a également des auteurs qui sont plus néophytes, là, des dessinateurs qui sont plus néophytes, qui ont déjà fait de la bande dessinée, mais qui sont moins connus. Donc, ça donne un bel apanage également là, de l'ensemble du panorama des créateurs, des créatrices de bande dessinée au Québec. Je pense qu'il y a Marc Pajot également qui fait partie d'un chapitre sur la grève à Radio-Canada. Donc, c'est des artistes de la région de Québec, de la région de Montréal, un peu partout au Québec, qui viennent vraiment donner là, leur élan créateur. Ils viennent contribuer à ce moment-là, à ce livre-là et au cheminement de cette histoire-là.
On vous invite à aller voir ces belles images, ces styles de bande dessinée aussi, bien, en apprendre plus sur René Lévesque avec cet ouvrage, cette bande dessinée, René Lévesque, quelque chose comme un grand homme, qui va être disponible en librairie dès demain, le 8 décembre. Il y a aussi, juste pour être sûr d'avoir toutes les informations, un lancement qui est fait à la Nincassi aussi demain.
Exactement, c'est à partir de 16h30 jusque vers 19h. Donc, vous êtes les bienvenus. Certains auteurs seront là pour dédicacer. Le scénariste Marc Tessier y sera.
Oui.
Pierre Skilling, dont on parlait tout à l'heure, Marc Pajot également. Donc, il y aura des gens pour vous accueillir et puis dédicacer vos livres.
Tout à fait. Eh bien, j'étais avec Julien Poitras, qui est éditeur pour cet ouvrage, qui est aussi doyen de la société, mais de la faculté de médecine à l'Université Laval. Ça, c'était un autre chapeau, mais là, c'est en tant qu'éditeur.
Oui,
c'est ça. Et voilà. On se dit donc, je vous remercie d'être venu en studio pour me parler de ça. C'était un grand plaisir. Ça m'a éclairé, justement, pour cet ouvrage qui sort demain en librairie. Puis on se dit à la prochaine.
Merci, Félix.
Au revoir.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
T'as envie d'une solution clé en main pour dénicher les meilleures nouveautés musicales? Facile, suffit d'écouter Le Démineur. Chaque lundi soir, je fais un tour d'horizon des meilleures sorties musicales de la semaine, tous styles musicaux confondus. Aucune raison de te perdre dans le flow des sorties musicales. Écoute Démineur, ton phare dans la nuit. C'est un rendez-vous les lundis soirs dès 21h sur les ondes de Chiz 94.3.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés.
Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 13h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
Les intellectuels déclassés, ce sont trois animateurs sérieux qui commentent l'actualité et qui, après la pause, se transforment en trois qui discutent de la culture web québécoise. La pertinence chevauchant l'absurdité. Une émission 2 en 1, parfaite pour égayer vos soirées les jeudis 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
Chance dans Whip le matin me rappelle que je suis béni. Que je dois être tout ce que je peux être. Je veux étoiles, puis je veux les pennies. Oh, puis au pire, je peux finir pauvre, mais je veux pas finir peiné. Une pincée de l'amour des miens sans se poser sur les peines. J'ai toujours faim, mais le jeûne est bénéfique. Yeah. À chaque nouvelle en plus, je me bonifie. Yeah. La souffrance me rend plus prolifique. Damn right, y'a aucun cliché sauf j'aime pas les flics. J'suis toujours ok, but hic up. Dans mon cas, j'suis still un kid, no stick up. Tant que je chante, je veux que les profits dansent. Je fais mon bread, puis tout le reste, je le laisse à Providence.
I know I came from a long way. Keep talking while I'm on my way. Better on my own, and I know there's something special waiting for me when I'll be there. When I'll be there, when I'll be there. When I'll be there, when I'll be there, when I'll be there, when I'll be there.
C'est le temps d'en parler, mais là c'est le temps de le faire. Still early, mais je les vois qui sleep. Qu'est-ce qui manque de fire, yeah. Ils veulent get the death, ça sent les légumes verts. Moi je vais tout eat, jamais full comme une moitié de verre. Puis j'ai les commas qui me conviennent. Mon come up est con, faut aucun temps pour tout ce qu'ils disent. J'suis le premier doux qui quitte la convo. Puis je veux trop pas être dans le groupe. Puis j'ai les bolés dans le condo sur les stats. Check les actions, nul d'entre eux ne comprend ce qu'on vaut, yeah. Si on est là, c'est pour faire de l'amour. On peut les stuns à l'épreuve de la mort. Ma vie c'est une joie, j'veux la rire. Yeah, yeah, we on the way, on arrive.
I know I came from a long way. Keep talking while I'm on my way. Better on my own, and I know there's something special waiting for me when I'll be there. When I'll be there, when I'll be there. When I'll be there, when I'll be there. When I'll be there, when I'll be there.
Vous êtes de retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. On va maintenant parler de la pièce Mon oncle Jules, et ça va être avec Jocelyn Sioui. Jocelyn Sioui qui est un marionnettiste, un comédien, un auteur. Il a fondé aussi des festivals, le festival Ouf Off Castellier. Il a fondé Belles et Brutes, une bande de théâtre. Il a fait beaucoup, beaucoup de choses. Et on se parle aujourd'hui justement pour Mon oncle Jules. Bonjour Monsieur Sioui, ça va bien?
Ben oui, ça va bien.
Oui, ben on va parler de cette pièce qui commence demain au Théâtre Périscope. C'est une pièce qui va parler de votre oncle, parce que justement, vous avez décidé de lui rendre hommage. D'où est partie cette idée-là de faire cette pièce qui s'appelle Mon oncle Jules?
Ben en fait, mon oncle Jules, hein, c'est mon grand-oncle qui a lutté très fort pour les droits autochtones dans les années 40 Et puis, bien sûr, ça repose sur un paquet d'affaires, mais principalement sur ce qui a démarré l'aventure, c'est que dans La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette, il est question de mon grand-oncle pendant deux pages. Mm-hmm. Et là, en faisant une courte recherche, je me suis rendu compte que ben il y avait très peu de choses qui avaient été racontées sur lui, mais que sans doute ce personnage-là est un personnage historique important comme activiste, mais aussi comme éveilleur de conscience à l'époque. Et puis voilà, j'ai vraiment plongé au cœur de son histoire. Puis de fil en aiguille, ben j'ai découvert que non seulement son histoire n'était pas racontée, je me suis questionné pourquoi elle n'était pas racontée, mais aussi j'ai réalisé que l'histoire autochtone en général, surtout celle du 20e siècle, celle après la création de la loi sur les Indiens, ben est pratiquement pas racontée. Elle était pas encore aujourd'hui, elle est absente pratiquement de nos écoles. Donc, ça a soulevé beaucoup de questions, puis j'ai essayé de trouver des réponses à ça que j'explique dans un livre, puis aussi dans le spectacle qui va jouer au Périscope à partir de demain.
Tout à fait. Donc, votre ouvrage qui est publié aussi aux éditions Anénorak, c'est votre premier spectacle solo aussi, et vous abordez en quelque sorte un nouveau cycle de création. Vous changez un peu votre façon de faire du théâtre avec quelque chose qui est plus personnel. Évidemment, c'est en racontant l'histoire de votre grand-oncle, mais pourquoi justement avoir un peu, j'ai envie de dire, changé vos habitudes?
Ben en fait, hein, c'est la croisée des chemins. À un moment donné, Belzébuth, on créait plus de nouveaux spectacles. On avait terminé nos tournées. Puis bon, je sentais que tout le monde était rendu un peu ailleurs parce que le théâtre, c'est très difficile. Hein? L'argent n'est pas toujours là. Les gens font des familles. À un moment donné, ils veulent des maisons. Ouais. Tu sais, on change, on évolue. Mais moi, j'évolue pas tant que ça, je dirais. En tout cas, pas au niveau créatif, j'ai envie de créer. Ça fait partie de moi. C'est mon ADN qui est là. Fait que j'étais un peu en réorientation, je me demandais quoi faire, puis quand ça s'est venu sur mon parcours, cette histoire-là, je venais de me dire, en fait, j'aimerais ça compter, j'aimerais ça parler, en fait, parler aux gens, parler directement, tu sais, pas être caché en arrière d'un masque ou pas être caché en arrière d'un spectacle, parce que je sentais que j'avais des choses à dire. Puis je trouvais que l'histoire autochtone, en tout cas comme porte d'entrée pour moi, est la bonne. C'est quelque chose qui était une découverte pour moi, parce qu'avant ça, je faisais des histoires de pirates, là, de samouraïs. Tu sais, j'étais pas du tout dans la culture autochtone, mais pas du tout. Et là, c'est déjà un virage à 180 degrés. Et cette approche-là me permet de peaufiner mon art marionnettique, de peaufiner ma façon de créer. En fait, tout ce que j'ai appris pendant une quinzaine d'années avec mon groupe, c'est appliqué, hein, ça se perd pas, hein. Ouais. C'est des techniques de création, puis c'est des façons de voir le théâtre. Fait que je suis ressorti plus fort, je dirais, puis j'ai continué à avancer là-dedans.
Tout à fait. Même si vous avez dit, vous avez fait référence au fait que dans le théâtre, comme dans toute forme d'art, en culture, ça peut être difficile, mais les années d'expérience sont jamais perdues aussi, comme vous avez dit. J'aimerais ça qu'on va parler, évidemment, de votre perception de faire, de parler de cette histoire des Premières Nations pour, finalement, aussi recoudre nos histoires, mais j'aimerais ça, avant que vous me décriviez ce dont on va pouvoir voir notre expérience quand on va aller au Théâtre Périscope à partir de demain pour voir mon oncle Jules. Qu'est-ce qu'on va voir sur scène, qu'est-ce qu'on va ressentir et tout?
Ben, je pense que c'est une belle expérience. Les gens qui l'ont vécu ailleurs, j'ai déjà joué 24 fois, là. J'ai un automne assez chargé, en fait. Puis je termine ça. En fait, c'est un retour aux sources, hein. C'est un retour, comme je disais à quelqu'un aujourd'hui, j'ai dit toute ma famille, autant du côté paternel que maternel, viennent de la région de Québec. C'est depuis à peu près deux générations qui sont à Montréal.
Ouais.
Puis donc, dans le spectacle, il y a trois écrans avec trois vidéos. Il y a moi qui est seul en scène, qui parle, qui raconte cette histoire-là, qui va dans toutes sortes de directions. Des fois, c'est drôle. Des fois, ça l'est moins. Des fois, ça peut être révoltant pour le spectateur qui va apprendre des choses. Des fois, c'est troublant. C'est très personnel. Des fois, j'utilise la marionnette, mais des fois, je fais juste parler. Donc, il y a des surprises visuelles. La vidéo est très surprenante aussi. Il y a des personnages qui rappellent la marionnette, qui apparaissent sur les écrans, qui viennent me parler, qui m'aident à raconter cette histoire-là, qui agissent un peu comme un personnage dans le spectacle. La vidéo, en tant que telle, dans le spectacle, est mon partner de scène, tu sais, est très présent. Puis c'est ça. Je m'amuse à osciller en entre le conte, le théâtre documentaire. Après ça, je reviens à une forme un peu plus personnelle, donc autofiction. Donc, ouais. On est dans toutes sortes de styles. En fait, je suis un artiste métissé. Hein. J'intègre différents trucs dans ma création depuis des années. Mm-hmm. Fait que ce spectacle-là n'y échappe pas. C'est construit. Je pense que c'est assez rythmé aussi. Les gens s'ennuient pas. C'est un spectacle qui peut paraître long à la base parce que c'est 2 heures de spectacle. Mais j'ai trouvé plein de subterfuges pour que les gens, même les gens qui vont pas beaucoup au théâtre, là, puissent vraiment trouver leur compte dans un spectacle comme celui-là. Les gens s'ennuient pas.
Ben, on vous invite à prendre vos billets dès maintenant pour la pièce Mon oncle Jules qui va être au Théâtre Périscope à partir de demain jusqu'au 18 décembre. J'aimerais ça qu'on conclue cette entrevue-là par, pas nécessairement le message, pas nécessairement l'intention, mais avec cette pièce-là, il y a, qu'on le veuille ou non, aussi une volonté justement de se tourner vers un avenir meilleur, un avenir où on va plus s'entraider, plus que de se diviser. Comment est-ce que vous voyez ça justement pour l'avenir, parce qu'on le sait, 2021, on a eu des mauvaises nouvelles au niveau de notre histoire, des liens entre si je pourrais dire, les Canadiens et les Premières Nations. On a des gens qui parlent de racisme systémique, il y a des gens qui ne veulent pas l'admettre. Justement, j'aimerais avoir votre avis sur l'avenir de tout ça, sur votre perception de tout ça.
Moi, je pense que très prochainement, les choses sont déjà en train de changer, hein? on le sent. Donc très prochainement, les programmes scolaires vont changer parce que les gens vont se rendre compte que justement c'est un autre exemple de racisme systémique, que les Autochtones, même dans les programmes scolaires actuels, ils vont parler des pensionnats, mais ils parlent pas de la loi sur les Indiens tant que ça, ils parlent pas. C'est à la discrétion des professeurs souvent, il n'y a pas de question d'examen là à la fin de l'année là par le ministère. En fait, c'est le ministère qui décide des programmes. Donc moi je pense que dans un avenir rapproché, on le sent déjà, tu sais, il y a de plus en plus de place pour les Autochtones juste sur les scènes. C'est sûr que là, il y a comme on peut croire un effet de mode, mais comme je dis tout le temps, oui, ça peut être un effet de mode, puis j'en suis peut-être une des personnes qui en profite, mais croyez-moi que ce que je vois sur les scènes en ce moment, puis les artistes qui se sont développés depuis les dernières années sont là pour rester, parce que c'est des artistes talentueux qui ont des choses à dire, puis ça peut être à différents niveaux. Donc, on est autochtones, mais on est aussi des gens qui vivent le même territoire, qui vivent des choses similaires, tu sais, comme une expérience de vie. Donc, je pense que c'est ça. C'est qu'on va commencer à marcher peut-être un petit peu plus main dans la main, parce que les gens, en sachant ce qui s'est passé dans ce pays-là, puis comment ça s'est fait, ben ça fait partie de l'histoire collective. C'est pas juste l'histoire des Autochtones, en fait. C'est ça qu'on réalise. Fait que quand on réalise ça, ben on a le goût que les choses se passent mieux. Puis on a le goût de tendre la main. J'espère, en tout cas. C'est ce que je sens. Mais bon, on va travailler pour que ça continue. C'est surtout ça, en fait. C'est pas abandonner puis de continuer.
Évidemment. Et on invite les gens à aller voir Mon oncle Jules pour participer un peu à ce changement de perception et se tourner vers un meilleur avenir. Je jasais avec Jocelyn Sioui qui a fait cette pièce-là, qui a aussi publié un ouvrage avec les éditions Anne Nourac. Ben, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup d'être passé à l'émission Chérie J'arrive. C'était un grand plaisir.
C'est tout à fait agréable de passer à Chérie J'arrive. J'aimerais ça pouvoir dire ça justement. Chérie, j'arrive.
Salut, à la prochaine.
Bye bye.
Bye bye.
Nebigegen is gesehen, gib es gern. Moi j'ai guipé, pis goun. Hey, hey, hey. Kiri ga, ni ga, we. Nanyo gudem, ge, udam, shin. Hey, hey, hey. Naman gichi, ad, wera, mun. Yeah. Mujek, pegun, gimir, era, mun. Тобой мужик, где-то гошный.
De retour à Chéri, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutiez Laurent Niquet avec Motescano, qui est son hit. On va se l'avouer. Je veux dédier la fin de cette émission en ce mardi 7 décembre à un concours, parce que hier, j'ai fait un don de deux paires de billets pour Bahamas. Il y a deux personnes qui m'ont appelé et j'ai encore des paires. Donc, si ça vous tente d'aller voir cet artiste torontois, je vous en ai fait la présentation hier. Artiste torontois qui est allé au Juno Awards pour quelques nominations, remporter des prix aussi là-bas. Il est actif depuis plus d'une dizaine d'années. Il a collaboré avec plusieurs bands canadiens. Et là, il sera à l'Imperial Bell jeudi. L'Imperial Bell, cette scène de la rue Saint-Joseph qui accueille beaucoup, qui ont recommencé finalement d'accueillir des gens en spectacle, en spectacle et recevoir le public aussi. Ben, on va y aller en musique avec Trick to Happy. C'est une chanson sur son album Bar Chords qui est sorti en 2012. C'est la première chanson de cet album-là de Bahamas. Et si ça vous tente d'avoir une paire de billets, vous m'appelez, et c'est pas plus simple que ça, je vous en donne une. Appelez-moi au 418-656-2215. Ben, je mets la chanson, appelez-moi, puis appelez-moi. Je vais vous donner une paire de billets, c'est pas plus compliqué que ça.
I'm lost in the light. I pray for the night. Take me to take you to. After so many words, still nothing's heard. Don't know what we should do.
So if someone could see me now, let them see you. It was my greatest thrill when we just stood still. You let me hold your hand till I had my fill. Even counting sheep don't help me sleep. I just toss and turn right there beside you. So if someone could help me now, they'd help you too.
Si vous aimez ce que vous m'entendez, vous pouvez m'appeler tout de suite pour gagner une paire de billets. 418-656-2215. 418-656-2215.
All the hard things we've all gotta do. Cause this life is long. And so you wouldn't be wrong. Being free. Said some awful things and I take them back. If we would try again, and just remember when, before we were lovers, I swear we were friends. So if someone could see me now, let them see you. Let them see you. Life is long, so you wouldn't be wrong.
Being free, leaving me alone.
C'était la douce musique de Bahamas avec Lost in the Light. Je veux maintenant y aller avec la chanson Trick to Happy. C'est sur son dernier album qui s'appelle Sad Hunk. Si vous voulez des billets, ben, il est en spécial. Il est en spectacle jeudi pour un spectacle spécial. Et je vous fais une offre spéciale en vous offrant une paire de billets. Appelez-moi au 418-656-2215. Je vous remets une autre chanson pour vous laisser le temps de m'appeler. Puis après ça, on va devoir conclure en cette émission déjà. Mais appelez-moi 418-656-2215. Et je vous donne une paire pour celui qui joue de la musique maintenant.
I just need to know. Is there a price for doing well? Should I feel bad 'cause I can't tell? I felt guilty there for a spell, but now I need to know. Am I wasting my time? Ooh.
Is there some trick to being happy? Most days I'm feeling like a half me. And feel that life is moving past.
only told you 'cause you asked me. What is the story of the hour? One man's privilege and his power. How it turns sweet love oh so sour. Still I need to know. Am I wasting my time? Ooh. Is there some trick to being happy? Most days I'm feeling like a half me.
Et c'est déjà le temps de conclure en ce mardi 7 décembre. Cette émission de Chéri, j'arrive. De quoi est-ce que je vous ai parlé? J'ai commencé avec la chronique Le gars des vues avec Alex Baillargeon. Ça a été suivi de la chronique de Jonathan Paradis. Tout de suite après, il y a eu aussi Émile Lapointe avec sa chronique Party Mix. Il nous a parlé du film Zodiac. J'ai jasé aussi avec Julien Poitras, qui est l'éditeur de la BD sur René Lévesque. Ça sort demain. Ça s'appelle René Lévesque, quelque chose comme un grand homme. J'ai parlé aussi avec Jocelyn Sioui de la pièce Mon oncle Jules. Ça, c'est demain sur les planches du théâtre Périscope jusqu'au 18 décembre. Allez voir ça, ça vaut la peine. Puis sinon, ben, je vous ai parlé du spectacle de Bahamas qui va être jeudi à l'Impérial. Je vous invite de prendre vos billets. Il y a d'autres spectacles aussi. Il y a Safia Nolin qui va être au Pantoum. Je vous invite à aller prendre vos billets et on se dit à demain. Pas plus simple que ça. Salut, ciao.
Surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Polo and Pan, la tournée Cyclorama. Polo and Pan. Le 11 décembre à la Place Belle. Un soir seulement à Laval. Billets disponibles maintenant sur evenco.ca. Polo and Pan, la tournée Cyclorama.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Passe d'avance, c'est bien fait! Le tir est le but!
Ce vendredi 10 décembre, vos remparts reçoivent les Huskies de Rouyn-Noranda dès 19h en direct du Centre Vidéotron. Ne manquez pas l'avant-match à 18h45 avec Rick Loutier. Remparts contre Huskies ce jeudi 19h seulement sur les ondes de Cheese 94.3.
Du
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Looking at the game, it's a fucked up scenario. Smoke on my burial, convos with Ariel. I just sat down with the government in Ontario. They're my biggest client now. They load up cargo planes and they fly them out. 2 million 6 minutes, big business. New crib in the cut, cost 6 tickets. $100 million fund, this is my third one. I already won. You got a plug in California, is it a steady one? Or does he play the fake price game like everyone? I'm locked in an 18. What a great team. Never been to jail, press, stay clean. The OGs respect me, the factory set on the present look sexy.
Run the streets until it's dark, call it catastatic. Till you run into my dog, call it paramedic.